Bonjour Laurie Fachot-Sigan.
Bonjour.
Pablo Neruda est décédé le 23 septembre 1973. Pourtant, ce n'est qu'en mai 2011 qu'une enquête judiciaire s'ouvre sur les circonstances de sa mort. Pourquoi il a fallu attendre autant de temps?
Puisque, dans un premier temps, c'est l'ancien chauffeur de Pablo Neruda, Manuel Araya, qui a toujours dit que son patron avait été assassiné. Alors j'ai interviewé à plusieurs reprises Manuel Araya, qui m'expliquait qu'en fait, personne ne l'écoutait, personne ne le croyait. Il s'est pas non plus rendu dans un commissariat pour en parler. Il y a aussi le contexte. Il y a eu donc la dictature de Pinochet au Chili jusqu'en mars 1990. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, Manuel Araya a commencé à donner des interviews. La première en 2004, c'est une interview qui n'a eu aucun écho. Et puis, en 2011, il a donné une interview à un journal mexicain. Et cette fois-ci, c'est le Parti communiste chilien qui s'est emparé, disons, de l'affaire, puisque Pablo Neruda était un militant communiste. Et c'est le Parti communiste chilien qui, en mai 2011, effectivement, a porté plainte pour homicide de Pablo Neruda.
Alors, durant cette enquête au long cours, la justice chilienne tente de déterminer la cause de la mort du poète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire a été marquée par de nombreux rebondissements. Quelles sont les principales révélations qui ont émergé de cette instruction judiciaire ?
Alors, ce qui est très intéressant, et c'est en fait où en est l'enquête aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs bactéries qui ont été retrouvées dans les restes de Pablo Neruda, puisque son corps a été exhumé en 2013 pour les besoins de cette enquête. Et ce qui est très intéressant, c'est que en octobre 2017, le troisième panel d'experts a rendu ses conclusions, et ce jour-là, on a su qu'un laboratoire canadien avait découvert une bactérie qui s'appelle le Clostridium botulinum, dans une dent de Pablo Neruda. Et cette bactérie peut produire, selon son environnement, l'une des toxines les plus létales au monde, qui est la toxine botulique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Neruda ? C'est que scientifiquement, on ne sait pas si cette bactérie a produit cette toxine botulique. Mais en tout cas, ça a été l'une des grandes découvertes de l'affaire. Une autre découverte aussi très importante, toujours en 2017, c'est que le panel d'experts a été unanime et a déclaré que le certificat de décès de Pablo Neruda de 1973, indiquant que le poète était décédé des suites d'un cancer de la prostate, était faux. Pour les scientifiques, c'est impossible scientifiquement que Pablo Neruda soit mort d'un cancer en phase terminale. Le poète souffrait d'un cancer de la prostate, ça on le sait, mais il n'est pas décédé des suites de son cancer. C'est en tout cas la conclusion des scientifiques en 2017.
Une question que vous évoquez également dans votre livre et sur laquelle vous avez beaucoup enquêté, c'est la question des armes chimiques utilisées sous la dictature d'Augusto Pinochet. Quand on parle de cette bactérie, la question est de savoir d'où pourrait provenir cette bactérie, si cette thèse devrait s'avérer exacte.
Alors effectivement, à partir du moment où on trouve le Clostridium botulinum dans la dent de Pablo Neruda, il y a d'autres questions qui émergent. La première, c'est comment cette bactérie est arrivée dans l'organisme du poète. Est-ce qu'elle aurait été inhalée par Pablo Neruda? Est-ce qu'elle aurait été injectée à travers une piqûre à Pablo Neruda? Ou est-ce que Pablo Neruda aurait pu consommer un poisson contaminé qui aurait pu contenir cette bactérie? Alors effectivement, la juge enquête, on ne sait pas aujourd'hui si Pablo Neruda a été assassiné ou non, mais c'est vrai que moi je me suis posé une question. Je me suis intéressée effectivement aux armes chimiques et bactériologiques qui ont été utilisées sous Pinochet, comme le gaz sarin et comme d'autres. Et à un moment, je me suis demandé, mais d'où pourrait venir cette bactérie, si tant est qu'elle ait été injectée au poète, vu que plusieurs témoins qui ont certes des versions différentes, beaucoup de témoins parlent d'une piqûre qu'aurait reçue Pablo Neruda lors de ses derniers instants de vie. Et effectivement, moi, je me suis demandé si cette bactérie aurait pu venir de Colonia Dignidad. Colonia Dignidad, c'était pendant la dictature de Pinochet, une enclave tout à fait fermée qui était habitée uniquement par des Allemands. Et on sait que Colonia Dignidad a participé à la répression des opposants avec Pinochet. On sait que des personnes y ont été torturées. Il y a aussi beaucoup de spéculations sur des personnes qui auraient pu y être tuées. Et voilà, je me suis posé la question de savoir si il y aurait pu y avoir un laboratoire chimique de Pinochet à Colonia Dignidad. J'ai retrouvé dans un documentaire un témoin qui explique que le laboratoire bactériologique de l'armée sous Pinochet aurait été transféré à Colonia Dignidad. Mais c'est vrai que ça, c'est une question que je me suis posée. Et c'est vrai que l'enquête autour des circonstances de la mort de Pablo Neruda soulève encore aujourd'hui, en réalité, énormément de questions. Et c'est ça qui en fait, tout le sel. C'est ça qui en fait une enquête qui est tout à fait fascinante.
Et pour l'instant, cette affaire est toujours en cours. Le jugement final n'a pas encore été rendu. Diriez-vous que cette affaire Pablo Neruda est symptomatique de cette longue marche du Chili post-dictature vers la démocratie ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'affaire Pablo Neruda, elle fait écho à toutes ces personnes, en fait, qui demandent justice, vérité. Au Chili, aujourd'hui, il y a encore plus de 2000 affaires de violation des droits humains commises sous Pinochet qui sont en cours. Maintenant, ce qui différencie l'affaire Pablo Neruda des autres, c'est que ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un assassinat sous Pinochet. Mais c'est vrai que cette affaire, elle illustre le besoin de justice et de vérité des proches. Et au Chili aussi, aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que on n'a toujours pas retrouvé le corps de 1162 personnes qui ont été détenues et donc disparues sous Pinochet. Donc c'est sûr que c'est vraiment une affaire qui illustre cette bataille pour la justice, la vérité dans un Chili qui est contemporain.
En décembre, les Chiliens se prononceront lors d'un référendum sur une nouvelle constitution qui doit remplacer l'actuelle, encore issue de l'ère Pinochet, justement. Mais ce nouveau texte a été rédigé par des conseillers majoritairement issus d'un parti d'extrême droite, nostalgique de la dictature, et vous en parlez à la fin de votre livre. Que dit ce paradoxe sur l'état de la société chilienne d'aujourd'hui, selon vous ?
C'est vrai que ce qui peut paraître surprenant, c'est que c'est un président de gauche qui a été élu en décembre 2021 président de la République, Gabriel Boric. Et en fait, suite à différentes crises, donc entre-temps, le Covid est passé par là, le Chili a connu, disons, une crise migratoire. C'est vrai que l'extrême droite, incarnée par José Antonio Kast aujourd'hui, est un parti politique puissant. Et c'est même, pour la première fois de l'histoire du Chili, c'est même un parti donc de droite radicale, le parti de José Antonio Kast, qui est le parti républicain, a gagné des élections. C'était en mai dernier. C'était les élections justement pour élire les conseillers constitutionnels. Et c'est vrai qu'au Chili, on a eu en 2019, disons, une révolte avec plus d'un million de personnes dans les rues qui demandaient justement une nouvelle constitution, qui voulaient en terminer avec les héritages de Pinochet, qui encore aujourd'hui sont très nombreux dans la société. Et puis, c'est vrai que entre 2019 et aujourd'hui, eh bien, une majorité de Chiliens, en mai dernier, ont voté pour un parti de droite radicale. Et en tout cas, ce qui montre bien aussi que le Chili n'arrive pas à écrire une histoire commune eu égard au coup d'État d'Augusto Pinochet, ça a précisément été la commémoration des 50 ans du coup d'État. Le président Gabriel Boric souhaitait qu'il y ait un accord commun, transpartisan. Il n'a pas réussi à l'obtenir. Et puis, il est vrai que certains partis de droite n'ont pas du tout la même vision, la même lecture de l'histoire que la gauche chilienne. Et puis c'est ça, en fait, qui a fait la une de la presse chilienne en septembre dernier.
Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Chambre 406, l'affaire Pablo Neruda. Il a été publié aux éditions de l'Atelier. Merci beaucoup, Laurie Fachot-Sigan.
Merci à vous.